On en parle, Théo Chavaillat.
C'est la suite dont on parle. Merci de nous recevoir chez vous. Gabriel Desarzan nous a rejoint pour continuer d'explorer la diversité des thérapies alternatives présentes en Suisse romande. Nous étions hier à Fribourg où on a appris que certains thérapeutes proposent à leurs patients d'émettre différents sons pour un mieux-être. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'apprend. Autre jour, autre thérapie alternative. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Gabriel ?
Je vous propose une approche qui s'appelait anciennement éthiopsychologie, qui s'appelle désormais méthode living. J'ai rencontré Nadia Fernandez-Cirillo, une infirmière qui exerce à 50% son métier d'infirmière dans un hôpital en pédopsychiatrie, et puis qui, dans son deuxième 50%, pratique à Écublanc, dans l'agglomération lausannoise, cette méthode living. Alors, c'est un travail qui s'effectue par pression, notamment sur le ventre des patients. J'ai bien aimé une image que Nadia Fernandez-Cirillo m'a donnée juste avant que je la quitte, à savoir qu'on est comme des vélos et que si on a des bâtons dans les roues, on avancera bien sûr plus difficilement avec des risques de tomber et on se fatigue. Alors la méthode living, m'a-t-elle dit, consiste à enlever les bâtons dans les roues pour que l'on puisse aller de l'avant librement, avec légèreté, plaisir. Mais elle a aussi une explication moins imagée. Écoutez.
Alors la méthode living, c'est une approche psychocorporelle où on va libérer les schémas répétitifs négatifs qui sont inscrits dans notre mémoire émotionnelle et qui se réactivent régulièrement dans des situations
de stress,
exactement.
Est-ce que ça se traduit par des mots physiques ?
Alors, il est vrai que les schémas répétitifs s'inscrivent dans la mémoire émotionnelle et puis ils peuvent provoquer avec le temps des autres mécanismes de défense qui vont se rajouter, qui sont plus au niveau mental, pour essayer de stabiliser cet émotionnel. Et quand l'émotionnel et le mental n'ont pas été libérateurs, c'est au niveau du physique que ça s'exprime.
Par des maux de dos, par exemple ?
Alors, ça peut être des maux de dos. Ça peut être aussi des cystites chroniques, ça peut être des problèmes d'allergie, de peau, d'intolérance.
Et vous travaillez essentiellement par pression, c'est ça ?
Exactement. La méthode living, c'est dans un premier temps identifier ces schémas répétitifs, puis ensuite comprendre de quelle manière ils sont structurés dans la personnalité de la personne, pour pouvoir ensuite travailler ses priorités. Et dans un deuxième temps, le lâcher-prise, la déprogrammation de ce réflexe se fait par pression directement au niveau du corps.
Et là, il y a quelqu'un qui va arriver.
Voilà. Donc maintenant, je vais commencer une séance avec donc une de mes patientes. C'est vrai que quand on travaille sur un schéma répétitif, ça se déroule en deux séances. Donc il y a une première séance où on va partir du schéma que la personne a choisi de libérer et on va retourner dans son passé pour rechercher l'événement réactivateur. Cette séance-là, on l'a faite il y a 2 jours avec cette personne. On est donc arrivé sur l'événement réactivateur. Je dis réactivateur parce que c'est pas toujours l'événement qui est à la source du schéma répétitif. Souvent, on l'a oublié. Mais comme il y a un effet de répétition, à un moment donné, on se souvient d'un événement de la chaîne, en fait. Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance où on va libérer ce réflexe neurovégétatif au niveau du corps.
Bonjour. Comment vas-tu ?
Ça va bien.
Super. Et toi ? Ok. Alors, comment vas-tu, Maria, depuis mardi ?
Mais écoute, je suis en plein dans le truc, quoi. J'étais mal. Vraiment, faut que ça empire. Enfin, ça empire. Tu sais,
ça remonte, quoi.
C'est le volcan, ouais.
Alors, c'est vrai que tu sais que parfois, entre les deux séances, le schéma peut être réactivé et du coup, les symptômes peuvent être plus présents.
Ouais.
Donc, je pense que c'est ce, que, c'est ce que tu décris,
ouais,
là.
Ouais. Ouais. Je les reconnais, mais c'est dur, quoi. Là, c'est lourd.
Je peux juste vous demander, est-ce que vous êtes venue ici chez Nadia avec une problématique aussi physique ?
Alors, c'est intéressant cette question parce que ça fait déjà un certain temps que j'ai mal à l'épaule. Et puis, la corrélation avec ce que je travaille aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que je porte, ce que je prends sur moi. Je porte. Puis c'est vraiment ça. L'ostéo, elle travaille sur mon dos, mais ça recommence. Et là, j'espère, c'est bien que vous en parlez, que ben, ça va se décanter, quoi. Donc moi, je suis toute contente de venir, en fait.
Alors, pour commencer, je te laisse déjà relire une fois la croyance que tu as choisi de travailler.
Alors, ma croyance est que j'aurais toujours peur de l'injustice.
Voilà, donc on est parti de là, on est redescendu dans ton passé et on est arrivé sur cet événement vers 9-10 ans. Je te laisse relire l'événement 2-3 fois à haute voix, mm-hmm. en te remettant bien dans l'image.
D'accord. Alors, vers 9-10 ans, sur le pas de la porte de ma chambre, pendant que mes parents se disputaient au salon, je n'ai pas su quoi faire pour ne plus en souffrir. Ça m'a raidi tout le corps. Je n'ai rien fait, j'étais perdue et me suis sentie impuissante.
Là, on a la croyance que tu ne veux plus, mmh. la peur de l'injustice. Mmh. C'est quoi pour toi, le contraire, la nouvelle réalité ?
Mmh. Bah, je veux plus cette peur, je veux plus ce machin qui me comprime, là.
Alors, ma nouvelle réalité, ça pourrait être me libérer de ma peur de l'injustice, me débarrasser de la peur de l'injustice.
Me libérer, ça me parle assez. Le mot libérer, ça me parle.
Donc, ma nouvelle réalité est que je libère et libérerai de plus en plus. Donc, on formule cette nouvelle réalité toujours au présent et au futur de plus en plus. Parce que le changement va être initié suite au travail au niveau du corps et il va ensuite de plus en plus s'installer dans la vie de la personne. Alors maintenant, on va choisir une image. Mmh. Il nous faut une image pour la deuxième étape concernant le travail sur la table. Mmh. Donc, il nous faut une image où typiquement, si ça t'arrivait maintenant, la peur s'activerait. Tu aurais de nouveau cette peur de vivre une injustice, de subir une injustice. Alors, est-ce qu'il y a un exemple qui te vient ?
Le frangin, c'est s'il revient avec son héritage, là.
Voilà.
S'il revient avec cet héritage-là, ça a déjà mal passé la dernière fois, ça va être de nouveau catastrophique.
Voilà, c'est ça qu'il nous faut.
Ouais.
Tu sens à l'intérieur de toi ?
Ouais, ouais.
Ok. Il nous faut un endroit, un début d'image où tu es bien détendu, relax. Donc, t'es où ? Tu te vois où ?
Je suis à mon appartement au bord de la mer.
Donc, tout ça, tu vas le visualiser quand tu seras sur la table, mmh. Les yeux fermés, mmh. avec une des deux mains en position télécommande. Mmh. Tu te souviens ?
Oui.
Et puis, tout d'un coup, tu lèveras le doigt quand il te dit « Il faut que je te voie pour parler de l'héritage, je t'en dis pas plus. »
Ouais.
On se voit samedi.
Ouais, ouais.
Tu sens dans ton corps ?
Bah ouais, je sens déjà que j'ai envie de les triper, mais voilà. Voilà. C'est là.
C'est là.
Là.
Et la gorge et le ventre. Ouais. Alors, c'est ça qui est nouveau. Donc, quand tu seras couché, tu te mets bien dans ton image où tu es relax, sécure, détendu. Mm-hmm. Et puis, quand tu es bien dans cette image, tu vas lever le doigt mm-hmm. et tu accueilles ça en restant connecté à tes ressources et en restant calme. Donc, zéro panique, zéro stress, t'es à l'aise, il n'y a pas de problème. Au fond de toi, t'es convaincu que tu es capable de poser tes limites mm-hmm. et du coup, il n'y aura pas d'injustice. Mm-hmm. Donc, dans cet état d'esprit-là, le mm-hmm. plus possible, le fait de tenir le cap, ça va lui permettre de perdre en force, surtout qu'à ce même moment-là, je travaillerai sur ton corps pour oui. déprogrammer mm-hmm. ce mécanisme de défense. Ok ? Ferme bien les yeux, tu visualises l'image et tu répètes la phrase en même temps. Vers 9-10 ans, sur le pas de porte de ma chambre, pendant que mes parents se disputaient au salon, je n'ai pas su quoi faire pour ne plus en souffrir. Ça m'a raidi le corps, je n'ai rien fait, j'étais perdue et me suis sentie impuissante. Je t'écoute.
Vers 9-10 ans, sur le pas de porte de ma chambre, alors pendant que mes parents se disputaient.
Et pendant que Maria répète ces mots, la thérapeute exerce des pressions sur son ventre.
J'ai rien fait, j'étais perdue et me suis sentie impuissante pendant que mes parents se disputaient dans le salon.
Les mains de la thérapeute se sont maintenant déplacées juste en dessous des clavicules. Nadia Fernandez-Cirillo, est-ce que j'ose vous demander, qu'est-ce que vous avez senti là où vous avez exercé des pressions ?
Alors, au niveau, donc on travaille au niveau des viscères. Donc les viscères, ça commence par le bas-ventre. On va dire vessie prostate pour les hommes, vessie ovaire-utérus pour les femmes. Et ça peut monter jusqu'à cœur-poumon. Et c'est à peu près tous les organes qui sont entre ces deux endroits. Donc, quand on fait ces pressions, on ressent des tensions, justement, au niveau du corps, qui sont des conséquences de la réactivation du réflexe neurovégétatif suite à la perception du stresseur.
Et là, donc, vous avez libéré les tensions.
Voilà. En libérant ces réactions au niveau du cœur, en fait, on empêche les organes de réagir et on permet de renvoyer une nouvelle information au cerveau, à la mémoire limbique, que quand la personne perçoit ce stresseur, tout va bien. Il n'y a plus de danger. Et suite à ce travail sur le corps, à ces corrections manuelles, petit à petit, les jours qui suivent, la personne va pouvoir observer un lâcher-prise au niveau de son fonctionnement de défense et un changement qui va s'installer de plus en plus.
Et Maria, comment vous vous sentez ?
J'ai l'impression d'être un peu en coton, mais comme vraiment le lâcher. Hein. Ouais, je me sens, je peux pas dire détendue, mais vraiment, vraiment comme de la ouate. Je peux pas dire autrement, je peux pas expliquer ça autrement. Moi, j'ai fait plein de techniques avant. J'ai fait une psychothérapie, carrément. Puis c'était pas un truc qui me parlait. J'avais l'impression de ressasser toujours la même chose, puis pas d'avancer, de pas rien comprendre ce qui se passe. Avec la psy qui faisait ça me parlait pas. Au bout d'une année, j'ai arrêté. Après, j'ai fait du Reiki, de l'énergétique. Ça m'apaisait, mais pas sur le long terme. Je comprenais pas ce qui se passait. Après, j'ai fait de la kiné. Mais la kiné, ce que j'aime pas chez la kiné, c'est que c'est long. Alors, ils testent sur le bras, puis après une séance, ils vous disent dans 3 semaines, dans 2 semaines. Alors, je passais mon temps là-bas. Et puis, bon, j'ai vu des résultats, mais j'ai trouvé que c'était long. Après, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait l'hypnose Ericksonienne, enfin, j'ai fait plein de trucs. Puis là, en 2 séances, il y a le côté psy qui. Parce que moi, j'ai besoin de tout comprendre, tout d'expliquer. Alors, pourquoi j'ai vécu ça? Ah ouais, c'est ça. Puis une fois que je capte, j'ai l'impression que, en plus du travail sur le corps, il y a tout qui s'emboîte. Puis en fait, on fait un tout. Il y a l'émotionnel, il y a le psycho, il y a la compréhension, il y a le corps, il y a nos réactions compulsives qui sont. Le sursaut, quoi. Enfin, le truc qu'on s'énerve, puis on se dit « Ah, oh, merde, j'aurais pas dû m'énerver », puis ça a pris le dessus. Là, j'ai l'impression qu'on travaille sur différents trucs, puis là, j'ai nettoyé quand même passablement de choses, quoi.
Mais pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça, des thérapies différentes? Est-ce que c'est parce que vous alliez particulièrement mal?
Alors, je pense que oui. Bon, moi, j'ai une mère psychotique, suicidaire, avec des gros soucis. D'ailleurs, qui est morte avec une marque dans le cou parce qu'elle voulait se suicider. Donc, voilà, fallait vivre tout ça étant gamin. Et puis, avec le temps, on se dit que ça engendre des problèmes dans notre comportement face aux autres. On n'a plus la même manière de voir les choses. On les voit comme on nous les a inculquées, mais c'est faux, totalement faux. Là, typiquement, les disputes des parents, bon, ça c'est encore un truc qui était assez basique, hein, avec ce que j'ai vécu. Parce qu'il y avait des choses difficiles.
Et puis des symptômes physiques aussi?
Ah ouais, moi j'ai toujours eu mal au dos. Force de porter, il fallait toujours être fort, il fallait se taire, il fallait y aller. On n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas de la place pour s'exprimer. Mes parents ne me demandaient pas comment j'allais. Fallait y aller. Puis ma foi, le seul moyen, je pense, que j'ai dû trouver comme ressource, c'est allez, on crispe, on force et puis on y va. Je faisais du sport intensif, je faisais du basket en professionnel. À un moment donné, je jouais avec le dos blessé, parce que si j'arrêtais, je faisais plus rien. Puis je me souviens d'un ostéo qui m'a envoyé chez un thérapeute où il faisait de l'introspection. Voilà. Et avec l'introspection, j'arrivais à visualiser ma mère qui me tapait sur le niveau du dos, mais symboliquement. Et ça avait lâché. Mais c'était juste de faire la corrélation avec ma douleur. Mais après, j'arrivais pas à savoir comment ça s'est installé, pourquoi j'ai mis ça en place, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris des médicaments, des antidouleurs pour votre dos?
Oui, j'ai eu fonctionné au Brufen pendant plusieurs mois. Je le prenais avec moi dès que je partais quelque part, parce que je me trouvais à 18 ans coincé, mais plus bougé, hein. Comme un légume, je pouvais plus bouger, ni en position couchée, ni en position debout, j'avais tout le temps mal.